Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien pour vous accueillir aujourd'hui dans nos studios. Nous allons passer la demi-heure qui vient en compagnie d'Ingrid Rieucreux, agrégée de lettres modernes et docteur de l'Université Paris-Sorbonne. Ingrid Rieucreux vient de publier un livre qui fera date, on en parle déjà beaucoup, sauf peut-être à la télévision. Et pour cause, le livre d'Ingrid Rieucreux s'intitule « La langue des médias, destruction du langage et fabrication du consentement ». Cet ouvrage est publié aux éditions L'Artilleur, ça ne s'invente pas. Je vous signale aussi, chers éditeurs, qu'Ingrid réagit parfois à l'actualité sur causeur.fr, complément numérique du magazine Causeur, dirigé par notre consœur Elisabeth Lévy, que nous saluons. Ingrid Rieucreux, votre livre est... une salve contre la langue pratiquée par l'intelligentsia médiatique française. Une langue, vous allez me dire si je me trompe, au service d'une idéologie, on peut le dire ?
Oui, c'est ça. C'est une langue qui est... alors je dis, moi, que c'est un code. C'est-à-dire que c'est même, pour reprendre le mot d'Olivier Reboul, c'est un sous-code idéologique. C'est-à-dire que c'est une manière d'encoder le monde qui se superpose aux exigences normales de la langue. Je peux donner un exemple très très simple, tout le monde verra de quoi je parle. Quand vous avez un article, plein d'articles qui titrent sur « la religion s'invite au travail »,« le problème de la religion au travail », etc. Nous savons tous qu'en réalité, il ne s'agit pas de la religion, il s'agit de l'islam. Nous avons tous compris ça, nous avons parfaitement intérioriser ce code. Et on pourrait donner énormément d'exemples, et ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, c'est de donner une typologie, finalement, de caractéristiques de cette langue qui permettent vraiment de dire qu'on a affaire à une langue spécifique, un sociolecte qui est propre aux journalistes. Et bon, il y a plein de sociolectes, finalement. Tous les groupes humains ont leur manière de parler, qui rencontrent d'une certaine manière de voir le monde. Mais le problème, c'est que le sociolecte des journalistes, nous y sommes tous soumis. Finalement, c'est notre grille de lecture du monde, c'est la vitre à travers laquelle nous voyons le réel. Et à partir du moment où cette vitre est déformante, eh bien, cela pose problème.
Oui. Alors, finalement, c'est un peu aussi notre faute, parce que quand on voit apparaître le journaliste, dites-vous, on a l'impression qu'on va être informé, tout bonnement.
Oui. Le problème réside en grande partie, effectivement, dans le rapport que nous avons avec ce discours. Quand on allume la télévision en se disant « alors, que s'est-il passé aujourd'hui ?», on est dans une situation de vulnérabilité énorme. Alors que si on allume la télévision en se disant « que va-t-on me dire ?»« Comment va-t-on me le dire ?», eh bien, on va recevoir le message, mais on va le recevoir avec la distance nécessaire pour ne pas être victime de tout ce qui va se glisser dans les mots, dans ces petites expressions qui reviennent et qui orientent notre réception du réel.
Cette idéologie, à quoi ressemble-t-elle? On parle souvent de bien-pensance, hein, par exemple, mais c'est un peu vague. À quoi avons-nous à faire, au juste?
Alors, oui. Alors, le problème de bien-pensance, on pourrait dire aussi politiquement correct, oui, c'est que ce sont finalement des armes politiques. On les entend dans la bouche de tel ou tel homme politique qui va prétendre qu'il est victime de la bien-pensance, qui va prétendre qu'il en a assez de ce politiquement correct et qui, en fait, va dénoncer un système de pensée auquel il participe complètement. Donc, c'est pour ça, cette idéologie... Je pense qu'on peut dire qu'il y a véritablement une idéologie journalistique. Ce n'est pas la pensée de gauche, hein, parce qu'on dit ça parfois, tous les journalistes sont de gauche. Bon, c'est vrai qu'ils votent majoritairement à gauche. Mais il y a véritablement une manière de penser le monde qui est propre à ce groupe humain, qui correspond finalement à une sorte de progressisme mou. Alors là, on peut prendre des exemples, c'est peut-être la meilleure manière de montrer la chose. Bon, l'idée que le mariage gay... C'est très très bien, il faut être pour. Par contre, le mariage incestueux, même entre adultes consentants, c'est inenvisageable. Voilà, on voit pas pourquoi. Hein. Après tout, les militants de la libération sexuelle sont déjà dans ce genre de perspective, mais pas les journalistes. On voit cette évolution si on fait attention au changement de mots. Par exemple, à l'époque du mariage pour tous, du vote de cette loi, du débat autour de cette loi, les journalistes parlaient encore de mère porteuse. Donc l'idée était de dire que ça n'avait rien à voir, qu'on n'allait pas vers la légalisation des mères porteuses. Et on voyait bien que dans leur bouche, c'était très négatif, mère porteuse. Aujourd'hui, ils sont passés à GPA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a assisté à cette acceptation progressive qui est en fait le fait de lobby, mais qui peut être ou ne pas être finalement entérinée par la parole journalistique. Et la question, c'est toujours ça, c'est à partir de quand les journalistes vont-ils entériner comme allant dans le sens du progrès, telle ou telle évolution.
Pour la rendre acceptable, on change le mot aussi, quoi. On remplace le mot par un sigle.
Alors, pour la rendre acceptable, je dirais que ce « pour », il est du côté des lobbies, justement. Il est du côté des militants. Les journalistes, eux, justement, ils l'acceptent. Et à partir du moment où eux l'ont accepté, le fait même que ce soit entériné dans leur langue va jouer sur notre acceptation de la chose. Donc ils sont, d'une certaine manière, uniquement un rouage. Ils sont les idiots utiles de tel ou tel lobby.
Alors, le protagoniste de votre livre s'appelle le journaliste avec un grand J. Si on devait faire son portrait robot, à quoi ressemblerait-il, cet homme ?
Oui, alors... évidemment, tout de suite, on a des noms qui viennent. Voilà, donc, en général, les gens me disent, voilà, Pujadas, voilà, c'est un affreux, Patrick Cohen, etc. Eh bien, moi, je vais peut-être vous surprendre. Ce livre n'est pas écrit contre Pujadas ou Patrick Cohen.
On l'a bien compris.
Hein, ils sont même assez peu présents dans le livre. Je dirais que, finalement, la cible de ce livre, c'est plutôt le journaliste, on va dire, anonyme, plutôt celui des chaînes d'information continue, qui est derrière son micro et qui donne l'impression de la parfaite objectivité, de la parfaite neutralité, parce qu'il nous lit les titres du jour. Voilà. Et parce qu'il interviewe telle ou telle personne, beaucoup plus connue que lui. Donc voilà, c'est cette personne, finalement, qui n'est qu'un discours, qui n'a pas de visage. Le plus souvent, ce sont des journalistes radio, donc, dont je prends les exemples. Et je ne donne pas les noms, d'ailleurs. Il est très rare que je donne les noms. Je vais plutôt donner la référence de l'émission dans laquelle on les a entendus, ou alors de la chaîne sur laquelle ils passent. Parce que ce qui importe pour moi, c'est leur discours, leur manière de parler. Et l'uniformité de ce discours. Parce qu'évidemment, c'est ça le problème. Si chacun avait sa manière de dire, il y aurait un véritable pluralisme, et ce serait très intéressant. Mais justement, non. Il y a une absolue homogénéité de langage.
Oui. Et vous soulignez dans votre ouvrage un élément qui me semble très important, c'est que l'idéologie à l'œuvre dans le traitement médiatique de l'information dépasse, vous l'avez dit tout à l'heure, le clivage droite-gauche. On retrouve les mêmes tics de langage sur TF1, France 2, BFM, ce qui est assez effrayant parce que si on se dit qu'il n'y a pas de parti unique en France, il y a quand même un discours unique.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a deux phénomènes qui peuvent, dont je parle dans mon livre et qui sont particulièrement symptomatiques de cela. C'est ce que j'appelle le syndrome AFP. Donc le fait que tout le monde reprend finalement des dépêches AFP, quel que soit le média que l'on envisage. Et puis la présence du CSA, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui intervient prétendument sur un certain nombre de problèmes, dont prétendument les problèmes de langue, et notamment la qualité du français, mais on se rend compte que sur cette question-là, ils sont finalement assez peu sévères. En revanche, dès qu'il y a le moindre écart d'ordre idéologique, dès qu'un journaliste, par exemple, n'intervient pas de manière assez sévère contre telle ou telle personne, un peu trop à droite, par exemple...
Vous donnez l'exemple avec Robert Ménard.
Là, il va être repris. Robert Ménard. Voilà, c'est ça. Donc, Anne-Sophie... comment s'appelle-t-elle ? Anne-Sophie Lapix, c'est ça, oui, c'est ça. Donc qui avait animé un débat. C'est ça qui est très important de comprendre, c'est qu'elle animait un débat entre Robert Ménard et deux autres personnes. Donc il était seul contre deux et elle était seulement animatrice du débat. Et il lui a été reproché à elle de ne pas avoir assez clairement pris position contre Robert Ménard. Le CSA donc a fait un communiqué pour dire que il désapprouvait le comportement de la journaliste. Et c'est quand même, dramatique.
Ouais. De quand date est-ce qu'on peut situer l'apparition de cette idéologie dans le paysage médiatique français ? Parce que je me souviens d'un livre, par exemple, il y a quelques années, d'Elisabeth Lévy, Les Maîtres Censeurs, qui dénonçait un peu déjà cette sorte de pensée unique dans les médias. Oui. C'est vieux, ça ?
Alors, moi, je ne saurais pas dire. Il faudrait voir avec des historiens des médias.
Vous êtes encore très jeune.
Voilà. Mais ce que je peux dire, c'est que suite à la publication de mon livre, on m'en a offert un autre. On m'a offert un livre qui est un livre de Michel Legris, qui est paru en 76. Et Michel Legris avait travaillé pendant 26 ans au Monde. Et il disait que... Donc, il avait démissionné du Monde en disant qu'il assistait à une mutation du journalisme. Et il la décrivait très bien. Et je me suis dit d'ailleurs que si j'avais lu ce livre plus tôt, je n'aurais pas écrit La langue des médias. Et il a écrit cela en 76. Et il dit justement que le journaliste est en train de devenir un militant, de se mettre au service d'idéologie, et qu'il n'a plus cette exigence qui était celle de ce qu'il appelle l'objectivité d'intention. C'est-à-dire être conscient qu'on ne peut pas être absolument objectif, mais au moins vouloir l'être. Et il dit maintenant, on est en train de d'entrer dans une autre forme de journalisme, qui est l'objectivité d'apparence. Donc on ne veut pas être objectif, on veut influer sur l'opinion des gens, mais on veut le faire tout en cultivant le mythe de l'objectivité et l'apparence de l'objectivité. Et lui, il dit, je ne veux pas participer à cela, donc voilà, je me retire. Et il a écrit ce livre contre le monde. Il était en procès contre le monde au moment où est paru le livre en 76. C'est un livre qui s'appelle donc Le Monde tel qu'il est.
Ce que vous dites, c'est que finalement, le journaliste donc, d'aujourd'hui, avec un grand J, toujours le même, hein, n'est pas là pour dire le vrai, il est là pour dire le bien.
Oui, effectivement. Je dis que l'éthique du vrai a cédé la place à l'éthique du bien. À partir du moment où le journaliste anticipe sans cesse notre réaction à ce qu'il est en train de nous dire. J'ai des témoignages de journalistes qui m'ont dit ça. Je pense notamment à un jeune journaliste qui avait travaillé dans un quotidien très célèbre, qui me disait qu'il avait quitté donc la rédaction de ce quotidien parce que il disait à chaque fois qu'on allait sortir une information, la question c'était est-ce que ça va faire le jeu du Front National. Donc la question n'était pas de sortir l'information, la question c'était d'anticiper en permanence l'éventuel conséquences de cette information en anticipant sans cesse les réactions ou réactions supposées des lecteurs. Donc lui, il leur avait dit « je ne veux pas travailler pour la Pravda » et il avait démissionné. Ils ne font pas tout ça. Et beaucoup m'ont dit aussi tout simplement « on ne veut pas perdre notre job ». Donc voilà, c'est amusant la réaction à mon livre. Beaucoup m'ont dit « mais voilà, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous écrivez ça, bon, mais vous ne savez pas quelles sont les conditions dans lesquelles nous travaillons. » Il y a un jeune journaliste qui m'a dit, par exemple, qu'il avait travaillé pour un autre grand journal. Et il me dit « mais dans cette rédaction-là, on est tous en CDD et ce qu'on veut, c'est obtenir la reconduction du CDD. Donc on ne va pas prendre des libertés avec le discours officiel. Ce qu'on veut, c'est pouvoir continuer à travailler. » Bon, le problème, évidemment, c'est accepte-t-on de travailler dans ces conditions-là ?
Ouais. Alors, ce qui est d'ailleurs assez cocasse, c'est que cette stigmatisation, vous parliez cette stigmatisation permanente du Front National, ne pas dire quelque chose qui pourrait faire le jeu du Front National, mais finalement le Front National est au cœur de la vie politique française.
Oui, 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 parce qu'il y a cette espèce de schizophrénie qui fait que, il ne faut pas faire le jeu du Front National, mais en même temps on sait que si on en parle, eh bien on vend. Voilà. Et on pourrait faire ce parallèle avec beaucoup d'autres choses. On va recevoir Zemmour sur le plateau alors qu'on le déteste, mais au moins on sait qu'il va faire de l'audience. Et ils sont tout le temps pris dans ce... Et ça les aigrit évidemment parce qu'ils sont pris dans cette espèce de position schizophrénique. Donc effectivement, ils sont tout le temps entre leur désir de faire du scoop, du storytelling, et puis surtout ne pas faire le jeu de...
Est-ce que vous pouvez, juste pour nos auditeurs, nous rappeler ce qu'est le storytelling, parce qu'on le voit partout sans parfois l'identifier.
Oui, disons que c'est la dramatisation, le fait de raconter des histoires, on va mettre en évidence telle ou telle tension entre telle ou telle personne, telle ou telle tension supposée d'ailleurs, parce que parfois il suffit que tel ou tel ministre ait nuancé le propos de tel autre pour qu'on dise que ça y est, il y a un clash. On va vraiment grossir les choses pour dramatiser la vie politique.
Ouais. Et bien souvent, finalement, les hommes politiques emboîtent le pas aux journalistes et construisent eux-mêmes, participent à la construction de cette histoire qui superpose au réel. Hein.
Mais voilà, et puis finalement, avec Emmanuel Macron, on a une espèce de paroxysme. Il est uniquement dans le storytelling et la mise en scène. Il n'y a même pas de programme, mais ça ne pose pas de problème. On parle de lui. Et les journalistes jouent le jeu.
Ouais. Alors, cette langue médiatique qui sait, qui cache plus qu'elle ne dit, où l'apprend-on ? Dans les écoles de journalisme ?
Alors, j'ai envie de dire que je ne peux pas savoir parce que je ne suis pas dans les écoles de journalisme. Ce que j'ai vu, moi, c'est que quand j'étais à la Sorbonne et que j'avais des futurs journalistes en cours de rhétorique en L3, ils s'apprêtaient à entrer dans les écoles de journalisme. Et moi, les jeunes que j'avais en face de moi, pour certains, ils étaient politisés, mais ils étaient désireux de faire du bon journalisme. Ils avaient une espèce d'idéal de Tintin reporter, quoi. Et les exemples que je prenais, qu'on pourrait considérer comme pas du tout politiquement corrects, en fait, passaient très très bien. Ils étaient vraiment intéressés par ce que je disais. Donc je me dis, les journalistes qu'on voit à la télévision, ils ont dû être comme ça. Voilà. Donc quelque chose s'est passé quelque part. Et manifestement, hein, il y avait un dossier récent dans Valeurs Actuelles sur ce qui se passait dans les écoles de journalisme. Effectivement, c'est beaucoup moins de la formation que du formatage. On leur enseigne cette culture de la responsabilité, qui est en fait ce qu'on appelle la responsabilité, finalement, c'est ce formatage idéologique dont ils vont être les courroies de transmission. Donc, il se passe bien quelque chose, effectivement, dans les écoles de journalisme. À quoi il faut rajouter que, évidemment, un certain nombre de personnes considèrent que faire du journalisme, c'est comme être prof, c'est un truc de gauche. Donc, on ne va pas encourager ses enfants à faire ces études-là. Et donc, finalement, l'entre-soi idéologique, on le cultive en renonçant à entrer dans certaines sphères, à faire certaines professions.
Ouais. Alors, vous dites, hein, vous écrivez page 19, analyser le discours de journaliste, c'est d'une certaine manière mettre au jour l'inconscient de notre société dans tout ce qu'il comporte d'irrationnel. Cet irrationnel, comment le décririez-vous ?
Alors, en fait, dans mon livre, j'essaye de donner un certain nombre d'exemples, mais... Par exemple, si je devais donner vraiment un point du dogme journalistique qui est absolument central et peut-être le plus irrationnel de tout, c'est la croyance dans le sens de l'histoire. Le dogme du progrès, voilà. C'est quelque chose qui va se glisser dans les phrases avec des petits mots comme « tel pays applique encore la peine de mort »,« tel pays a déjà légalisé le mariage gay ». Voilà, ces petits « déjà » vont nous situer sur la ligne du temps et fixent une espèce de terme fantasmé, une fin de l'histoire qui est posée comme le but naturel vers quoi tout progresse naturellement. Et effectivement, par rapport à ce but, eh ben, le Brexit, c'est un cataclysme. C'était moralement impossible. Par rapport à ce terme de l'histoire, l'élection de Trump, c'était moralement impossible. Si on regarde les sondages, en termes numériques, ça ne l'était pas du tout. C'était même tout à fait prévisible. Mais, comme ils disent, il ne pouvait pas être élu, au sens où on dit « tu ne peux pas me faire ça ». C'est-à-dire, moralement, c'est inenvisageable.
On se souviendra aussi du traitement médiatique du référendum sur l'Europe de Jacques Chirac, qui avait été... donner lieu à des débats absolument inouïs, finalement. Ceux qui votaient contre le traité européen étaient réellement mis au ban de l'humanité.
Presque. Oui, parce qu'ils allaient contre le sens de l'histoire. Ouais. C'est absolument la même chose.
Ouais. Alors, on pourrait opposer à votre thèse, vous l'avez cité tout à l'heure, la présence sur les plateaux de gens comme Éric Zemmour, par exemple, d'autres que vous appelez les dissidents. Mais vous avez prévu cette objection, me semble-t-il.
Oui. Moi, je dis que Zemmour sera vraiment au pouvoir quand il sera dans le siège de Pujadas. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'effectivement, ils sont très présents sur les plateaux. Bon, Elisabeth Lévy, Finkielkraut, Zemmour, Onfray, on pourrait en citer d'autres, hein, Rioufol. Mais leur parole est extrêmement encadrée. Ils sont reçus, on va les désigner comme des polémistes, comme si c'était un travail. Moi, je sais pas, il y a une fonction apparemment, on est rémunéré comme polémiste, il faut croire. Voilà, non, polémiste, ça nous dit tout de suite qu'ils vont tenir des propos dangereux, qu'on va les entendre, mais il ne s'agirait pas de leur accorder trop de crédit. Leur parole est encadrée, leur parole va être hachée par des questions, on les interrompt, on va insister sur tel ou tel mot, on va traquer le dérapage, c'est-à-dire l'écart par rapport à la pensée autorisée, et puis après, il y a la séquence où on les écoute, et après, on met un terme à cette séquence, ça y est, c'est fini, et on rentre de nouveau dans le discours devant lequel nous sommes très vulnérables, qui est celui de l'information dite objective. Donc leur parole est tellement mise en scène, tellement encadrée, tellement surveillée, que finalement, c'est pas parce qu'on les entend que c'est eux qui ont le pouvoir.
Ouais. Alors, dans la bouche des journalistes, il y a des mots qui reviennent périodiquement, vous en avez cité un, donc dérapage. C'est généralement pour clore le débat avant de l'ouvrir, finalement. Mmh. Quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas en phase avec l'idéologie dominante et tout de suite, c'est un dérapage. Et puis, il y a des cases toutes prêtes hein, pour les récalcitrants. Si on n'est pas à 100% d'accord avec le GIEC, on est un climato-sceptique. Mmh. Si on s'attaque un tant soit peu au discours des frères musulmans, bah, c'est que forcément, on est un islamophobe. Oui, il y a des mots tout prêts.
Oui, alors le problème, c'est que islamophobe, c'est un mot de militant. On a le droit de l'employer, si vous voulez, si vous êtes un militant du comité de lutte contre l'islamophobie en France, le CCIF. Mais ça n'a rien à faire dans la bouche des journalistes, évidemment. Et pour le climato-scepticisme, c'est très intéressant. Moi, je me suis intéressée à la manière dont les journalistes accueillent la parole des experts. Et on se rend compte que les experts du GIEC, finalement, sont assez mesurés, assez prudents, qu'ils débattent entre eux. Mais la manière dont les journalistes mettent en scène cette parole, parole va donner l'impression qu'il y a un dogme unique auquel il faut adhérer. Et moi, je pense par exemple à un article qui était paru, c'est un article AFP, donc il a été repris dans tous les médias, lors de la canicule à la fin du mois d'août, dans lequel on voyait que tel expert du GIEC reconnaît que la canicule pourrait être un signe du réchauffement climatique. Et on se dit, mais pourquoi reconnaît? Pourquoi il admet? On se rend compte de la position qui était celle du journaliste qui a interrogé l'expert. Et l'expert n'était pas consulté, il était sommé d'accréditer une thèse alors qu'il voulait être beaucoup plus prudent. Donc même la parole des experts du GIEC finalement, ce n'est pas elle qui est porteuse du dogme officiel, c'est vraiment les journalistes.
Ouais. Deux mots sur Je suis Charlie s'il vous plaît. Après je dirai un tout petit passage de votre livre parce qu'on... On s'amuse parfois, hein, dans votre livre, c'est pas aride, hein, on s'amuse beaucoup, vous donnez beaucoup d'exemples, et puis vous laissez libre cours à votre fantaisie parfois. Cet épisode du « Je suis Charlie », il est symptomatique aussi d'une certaine pratique.
Oui. Il me semble qu'un journaliste aurait dû s'interroger justement sur la validité de ce slogan. Qu'est-ce qu'il nous dit, et puis qu'est-ce qu'il ne nous dit pas? Parce que par exemple, ce slogan a été assez mal accueilli par la communauté juive, évidemment. « Je suis Charlie », mais c'était une manière de glorifier en victime le journaliste, évidemment. Et c'est pour ça qu'ils étaient tous Charlie. Et puis « Je suis Charlie », on a tous été Charlie, mais finalement... c'était vraiment le slogan vide par excellence. Personne n'était capable de... ou plutôt, tout le monde y mettait ce qu'il voulait. Voilà, et donc on faisait défiler côte à côte des gens qui étaient pour qu'on abatte la République, d'autres qui étaient pour l'interdiction de toutes les religions, etc. Et tous ces gens-là étaient Charlie. Donc il y avait une énorme hypocrisie dans ce slogan, et peut-être qu'un bon journaliste aurait pu s'interroger là-dessus, sur la grande comédie de l'esprit, l'esprit « Je suis Charlie ». Ça n'a pas été fait, puisque les journalistes étaient Charlie eux-mêmes.
Alors vous dites à propos de « Je suis Charlie », je vais vous citer, hein, c'est page 35, c'était un slogan schtroumpf, ce « Je suis Charlie ». Schtroumpfons tous ensemble, oui, schtroumpfons, sauf que le verbe « schtroumpfer » n'a pas le même sens pour tous les schtroumpfs en présence, donc personne ne sait ce que signifie être Charlie, mais il est ignominieux de ne pas être Charlie, quelles que soient ses motivations, celui qui n'est pas Charlie tombe sous le coup d'une condamnation a priori, il ne veut pas schtroumpfer avec les autres. C'est dangereux de ne pas vouloir schtroumpfer aujourd'hui.
Oui, mais on a vu des interviews assez incroyables. Je pense à une interview de Marine Le Pen par Bruce Toussaint. La question, c'était « Êtes-vous Charlie ?» Et tant qu'elle n'avait pas répondu, tant qu'elle essayait d'enrichir sa pensée ou de nuancer un petit peu, on lui répétait « Êtes-vous Charlie ?» Je vous demande « Êtes-vous Charlie ?» etc. Mais c'est incroyable. C'est pas du journalisme, c'est l'Inquisition.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a d'autres gens aussi sur l'échiquier politique qui sont victimes de cette... je pense notamment, par exemple, à Jean-Luc Mélenchon, qui souvent est poussé dans ses retranchements par...
Oui, et tout à fait. Et lui, il a trouvé la parade, il a ouvert sa chaîne YouTube. Donc il contourne les grands médias, il se met dans une situation où il peut développer une pensée subtile. Et il faut bien le dire, sur les grands médias, il est impossible de développer une pensée subtile.
Alors... on va bientôt terminer, j'en suis désolé. Je tiens à dire que votre livre ne fait aucune place à les théories du complot. Hein. Au contraire, vous souhaitez tout simplement, je vous cite là encore, proposer à vos lecteurs une grille d'analyse afin de former les réflexes d'écoute. Hein. Mmh. C'est ça.
Oui, il s'agit en fait de donner un maximum d'exemples pour que ensuite, devant son poste, on puisse se dire « Ah, ça me fait penser à ça. Est-ce que ce serait pas le même mécanisme ?» Voilà. Et tout simplement, avoir cette distance de se dire « Je ne suis pas en train d'être face au réel, face aux événements. Les événements ne parlent pas. Je suis face à un discours. » Et à partir du moment où on prend conscience de cela, on a la distance nécessaire pour ne pas être victime de ce qu'on va entendre.
Ouais. Le regard que vous portez, pour terminer, sur l'élection présidentielle, le traitement médiatique de la campagne qui démarre, qu'est-ce que...
Eh bien, moi, je dirais
l'affaire Fillon...
On a affaire tout simplement à une espèce de confiscation de la démocratie par les médias, et c'est terrible, parce que ce qui se passe, c'est que les gens qui rejettent le fonctionnement du système médiatique, et après tout, ils ont bien raison de s'en méfier, eh bien, ils sont en passe de passer à autre chose, finalement, c'est le rejet de la démocratie elle-même, parce qu'elle est confisquée par les médias, et ça, c'est très dangereux.
Oui. La guerre civile, c'est possible, par exemple, ou la dictature, demain ?
Mais je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que face à cette espèce de caste idéologique, il y a un sentiment de révolte qui gronde, et s'il n'est pas pris en compte, eh bien on ne sait pas ce qui peut se passer.
Ouais.
Donc l'hypothèse de la guerre civile, c'est pas à moi de la développer, mais bon, Yvan Rioufol, par exemple, a écrit un livre qui s'appelle « La guerre civile qui vient ». Ça donne à réfléchir tout de même.
De nombreux lecteurs de votre livre vous ont demandé « Mais qui est derrière tout ça ?» Qui est derrière tout ça ? Je vous la pose, alors moi aussi.
Mais personne, justement, il n'y a pas de grand Manitou. Si vous voulez savoir, l'autre jour, j'étais au Grand Orient de France pour présenter ce livre. Il m'avait invité à en parler, et donc au siège de la franc-maçonnerie quand même. Et une dame s'est levée et à la fin, donc, a posé une longue question. Et à la fin, elle m'a dit « Et aussi, je voudrais savoir qui est derrière tout ça ?» Donc voilà, ceux qui croient que les francs-maçons sont derrière tout ça, sachez que les francs-maçons aussi se demandent qui est derrière tout ça. C'est tout simplement, finalement, l'entre-soi idéologique qui s'entretient. C'est très humain, finalement. Ouais. Le fait d'être dans un bain, de reproduire un discours. Finalement, on le fait tous un petit peu aussi. Le problème de la parole journalistique, c'est qu'elle a un pouvoir énorme. Ouais. Voilà, c'est tout simplement ça.
C'est un effet grégaire.
Tout à fait, ouais. Voilà.
Ingrid, un grand merci à vous. Je rappelle le titre de votre livre, La langue des médias, destruction du langage et fabrication du consentement. C'est publié aux éditions L'Artilleur. Avant de nous quitter, chers auditeurs, je vous annonce une excellente nouvelle. Ingrid Riocreux reviendra prochainement dans nos studios pour évoquer deux autres sujets que je lui ai proposés, la pensée unique et l'empire du bien. Et là, les lecteurs de Philippe Muret me comprendront. À très bientôt, chers auditeurs et auditrices. Restez-nous fidèles, les programmes de Radio Grand Ciel se poursuivent pour votre plus grand plaisir. En tout cas, nous l'espérons tous. À bientôt. Thank you.